quand même. Je vais faire au moins cette... avoir cette idée-là.
Bon. Alors, il y a quelques questions qui sont autour de la compréhension de ce que j'ai dit. Il y en a une ou deux, pas plus. Mais il y en a beaucoup, bien évidemment. Et c'est normal, hein, c'est le thème. Autour de l'addiction et puis comment approfondir cette question-là. Donc, ça sera une deuxième... comment dire, une deuxième partie, quoi. Et puis d'autres, alors, des questions qui sont, j'ai envie de dire, beaucoup plus pratiques, existentielles. Bon, voilà un petit peu, au moins, ce que j'ai sous les yeux. N'hésitez pas hein, à réagir ou à me couper la parole. Ça, généralement, ça ne me gêne pas, donc il n'y a pas de raison que ce soit le contraire ce soir. Voilà. Alors, simplement une question d'explicitation. Et alors, j'ai peut-être été trop vite, hein, certainement, quand j'ai évoqué les cas, si vous voulez, j'ai été trop vite sur Clara, Clara et puis la codépendance de Nathalie et Pierre. Alors, que ça soit bien clair, c'est pas pour Andrew, mais c'est pour Clara qu'elle découvre que sa relation extra-conjugale est comme un symptôme, j'ai envie de dire, tout à fait précieux pour découvrir une féminité qu'elle avait complètement oubliée. Alors, ça la bouscule, ça la bouleverse, c'est sûr, mais en tout cas, c'est précieux pour son avenir. Hein. Et effectivement, elle joue cela en essayant de changer de profession. Voyez. Donc, c'est de Clara qu'il s'agit et pas d'Andrew. Enfin, c'est pas la même situation. Je m'excuse aussi, j'ai été très vite sur la codépendance entre Nathalie et Pierre. Hein. Alors, pour revenir très, très rapidement, si vous voulez, là-dessus, il aurait fallu insister davantage sur ce que le couple a inventé pour faire face à cette addiction. Et c'est à ce propos-là que j'ai parlé de méthodes répressives et puis aussi de stratégies d'anticipation. Et alors c'est le couple hein, qui a découvert petit à petit ce qu'il est peut-être possible de mettre en place pour commencer de faire face à cette codépendance. Bon, ça c'est une chose. Je vais faire un premier galop, si on peut dire, autour des questions qui concernent l'addiction. Je m'arrêterai, et puis, si tel ou tel veut intervenir, ça sera le moment, puis je reprendrai après, quoi. De façon à ce que ça soit un peu interactif, autant que possible. Alors, bien évidemment, hein, autour de cette question d'addiction, c'est tout un monde. Vous en êtes rendu compte, bien évidemment. Je pense dans un premier temps, il faut arriver à distinguer, c'est pas facile, l'addiction qui est comme l'expression d'un malaise personnel, c'est la solution qu'on trouve, quoi. Elle est peut-être pas terrible, mais enfin c'est ça, hein, très bien. Et l'addiction qui petit à petit ou suivant les moments, fabrique, si vous voulez, de l'enfermement. Et donc, comme l'un ou l'autre a dit, a ce côté toxique, si vous voulez. Hein. Alors, la difficulté, c'est que la plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas sur le moment, mais c'est dans l'après-coup. Je crois que c'est quasiment inévitable hein, d'être affronté à cette façon de vivre l'addiction. Hein. Bien évidemment, quand on parle d'addiction, il faut savoir de quoi on parle. Je ne pense pas que ça soit la même chose, enfin je ne pense pas du tout d'ailleurs, que l'addiction au sexe soit comparable à une addiction au tabac ou à autre chose. Ce n'est pas le même objet, pour reprendre mon terme de tout à l'heure, vous voyez. L'objet tabac ou l'objet drogue, bon, ça a des caractéristiques, ça a des effets, ça provoque du plaisir, tout ce qu'on veut, hein. L'addiction au sexe engage une relation. On est dans un autre monde, vous voyez. Et je crois qu'il faut bien faire les... À mon avis, il faut bien faire les distinctions, quoi. Voilà. Hein. Même si, d'un point de vue un peu théorique, on pourrait penser que ça obéit au même processus. Alors, écoutez, moi, je suis... Tout et pas dans tout, quoi. Voilà. C'est un peu ma position...
Alors,
ah oui, oui. Alors celle-là, par exemple, est-ce qu'une addiction au sexe est comparable à une addiction au tabac? C'est là où j'essaye de répondre. Existe-t-il plusieurs types, natures d'addiction? Je suppose au sexe. Oui. Évidemment, hein, être accro au cybersexe, bon, bah, voilà, ça qualifie toute une relation. Et c'est pas pareil que d'avoir une pratique, je sais pas, de sauna ou autre. Vous voyez, c'est le. À chaque fois, si vous voulez, alors de mon point de vue, moi, ce que je trouve important à réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe dans un type d'addiction précise. Vous voyez, mais pas du tout. Oh là là, vous n'allez pas vous en sortir, ou c'est pas bien, ou... Non, moi, c'est pas du tout ma... Comment dire ? Ma perspective, on va dire ça comme ça.
Qu'est-ce que vous entendez par « ça engage une relation » ?
L'addiction au sexe ?
Ouais.
Ben, c'est-à-dire, généralement, pas toujours, hein, mais il y a des addictions qui engagent une relation, ou une relation avec l'autre, ou même une relation à soi, hein. C'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. Vous voyez ? Sommes-nous dans l'addiction au niveau de nos relations affectives ? Oui et non ? Eh bien oui. Ça, c'est l'épreuve de n'importe quel couple, quelle que soit la forme du couple. Hein. Est-ce que cette relation va être... un enfermement ou l'occasion d'une ouverture et d'une liberté de chacun des partenaires. C'est une question qu'il faut toujours se poser. Hein. Je pense qu'il y a, évidemment, ça ferait sauter, je pense à certains couples chrétiens qui sont collés ensemble au nom de mille et une raisons, si on leur disait qu'ils ont une conduite addictive dans leur couple, il ferait des bonds de 4 mètres, mais n'empêche, vous voyez, c'est, voilà, c'est un petit peu comment, je pense, enfin, je raisonne un petit peu à ce type de questions. Est-ce que l'addiction peut être le refus du manque? Ah, alors, c'est revenu plusieurs fois, hein, la question du manque dans les questions. Alors ça, c'est effectivement énorme. Hein. Alors, de mon point de vue psy, je vais dire comme ça, très rapidement, c'est trop rapide, hein, que pour moi, il n'y a pas de désir sans manque. Parce que c'est le moteur, si vous voulez, du désir. Hein. Mais après, il y a des variations tout à fait importantes, hein. D'abord parce que le désir, enfin, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que le désir se développe sous forme de besoin, sous forme de demande, sous forme de plaisir immédiat? C'est complexe, quoi. Enfin, et ça demande à ce moment-là toute une élaboration. Hein. Mais ce qui est vrai, hein, c'est que, effectivement, le manque, d'une certaine façon, ou l'exercice du manque, c'est quelque chose qui fait partie de la structure de tout un chacun. Hein. Alors, vécu plus ou moins facilement, suivant l'histoire, suivant les événements, OK, hein. Mais pour vous faire comprendre ça, j'ai envie de dire que une naissance, eh ben c'est un manque de mère, quoi. À un moment, si vous voulez, eh ben le gamin, il est expulsé, il faut qu'il fasse sa vie, hein. Et comme certains psys, je sais plus lequel, disaient, oh ben dans le fond, une naissance, c'est une grossesse qui n'a pas réussi, quoi. Enfin, vous voyez, c'était une façon de voir. Façon de voir. Mais ce qui est sûrement, là, je crois, important à repérer, hein, c'est que le manque, il s'inscrit dans notre humanité, au plus profond. Et alors, il s'inscrit de façon différente. Voyez. D'où les questions d'attachement sur lesquelles j'ai insisté tout à l'heure. Hein. Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions autour du manque, mais peut-être que je vais les retrouver au fil des questions. Alors, dans cette première intervention, il y a des choses que nous n'avons pas entendues. Oh, ben ça, c'est sûr. Mais quand même, dans le processus qui mène à l'addiction, vous n'avez pas parlé de la recherche de plaisir, de l'amour et de la rencontre. Oui, c'est vrai. C'est des mots que je n'ai pas utilisés, peut-être parce que j'étais trop branché sur les processus qui étaient à l'œuvre, en oubliant effectivement la notion de plaisir qu'il y a, si vous voulez, parce que de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans manque, on va dire ça comme ça, on ne peut pas vivre sans plaisir, si vous voulez, voyez. Et sans plaisir, sans amour, enfin, bien évidemment. Hein. Les addictions, une addiction n'est jamais dénuée d'amour, enfin, vous voyez. Le problème, après, c'est de voir comment ça fonctionne, mais n'empêche que ça en fait partie, quoi. Hein. Alors, c'est une même question, enfin, c'est... Là, c'était à propos de la drogue, tout à l'heure, c'était le tabac. L'addiction au sexe est-elle de même nature que l'addiction à la drogue? Oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même objet, au sens technique du terme, vous voyez. Là, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Donc, celui ou celle qui a écrit « L'addiction au sexe est-elle de même nature que l'addiction à la drogue ?» s'il reconnaît son papier et s'il m'aide à lire, je le garde de côté. Hein ? Pourquoi favoriser l'addiction au sexe par rapport à une autre addiction ? Ben, d'abord parce qu'on m'a passé la commande. Eh ben oui, tout simplement. Et puis, alors bon, ça c'est un détail, mais pas seulement, vous voyez. Je pense qu'on est dans une société quand même, hein, qui pose véritablement ce genre de questions. Donc c'est pas du tout surprenant que ça vienne, j'ai envie de dire, en premier lieu. Hein. Et alors c'est pareil, là j'arrive pas, comment actualiser le du mal? Délivrez-nous de toute forme d'addiction. Là, je la mets de côté.
C'est la même écriture?
Oui, c'est la même écriture. Mais j'arrive pas bien à la lire, alors je veux pas dire des choses de travers, quoi. Voilà.
Alexandre. C'est pas moi qui ai écrit.
Ah bon? Mais si vous étiez dans le groupe, peut-être que vous pouvez récupérer le...
Non, mais juste pour la première question, je pense que vous l'avez peut-être mal compris.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'un individu va privilégier de s'orienter vers une addiction au sexe plutôt qu'une addiction au jeu, plutôt qu'une addiction à la drogue plutôt... Voilà. Comment une addiction va s'imposer à nous en fonction de quels critères, de quelle genèse, de quel...
Alors ça...
Merci Alexandre.
Eh bien ça, moi, là, je ne peux pas répondre tant que je n'ai pas écouté la personne. Vous voyez, ce genre d'affaires. Je ne veux pas vous répondre parce que c'est vraiment lié... à toute une trajectoire individuelle, parce que c'est pas, comment dire, ouais, c'est pas par hasard, quoi, on va dire ça comme ça.
Hein. Est-ce que vous pensez, enfin, ça va un peu plus loin la question,
oui,
est-ce que vous pensez qu'une addiction va naître forcément à cause d'un événement traumatique que la personne va essayer de répéter pour justement s'en défaire.
Ah. Ah ouais. Alors j'ai envie de dire non.
L'illisible, c'est celle-là.
Ouais. J'ai envie de dire non parce que, alors de mon point de vue, alors ça c'est un point de vue éthique, je ne crois pas que l'humain est déterminé d'une façon absolue et définitive. Et qu'il n'y a pas, ou je le reprends autrement, qu'il n'y a pas de situations, comment dire, qui sont des impasses absolues. Même si on peut penser que quelquefois, on peut le penser quelquefois. Enfin voilà. Mais alors là, je me déplace, pas seulement d'un point de vue psy, mais d'un point de vue éthique. Hein. Je le redirai autrement, je pense qu'il y a toujours de la vie possible. Quoi.
Parce que nous, dans notre groupe, on s'est interrogé sur le déclenchement d'une addiction.
Oui.
Et vous aviez insisté au début sur donc, la répétition d'un événement traumatique pour s'en défaire, ou sur la reproduction de situations déjà vécues dans l'enfance.
Absolument, oui.
Mais, j'allais dire, ces deux causes possibles d'addiction... sont loin de comment dirais-je, d'expliquer tous les types d'addiction.
Ah, tout à fait. Ah bah tout à fait.
Et même au niveau de l'addiction au sexe, je pense qu'il y a d'autres...
Il y a forcément... Oui.
On s'interrogeait un petit peu sur lesquels ça pourrait être.
Vous avez travaillé cette question-là?
Moi, j'ai travaillé, oui, mais on va voir un petit peu au niveau...
Moi, j'ai insisté là simplement que sur deux processus psychologiques qui sont à l'œuvre. Oui. Mais il y en a d'autres, forcément.
D'accord.
Vous voyez, ça, je crois. Il faut pas... Ah oui, ça, c'est aussi important dans ce que j'ai essayé de dire, si vous voulez, dans mon topo. Surtout, c'est pas une parole d'évangile. Hein. Je dirais, il y a plein de choses que je n'ai pas dites, ou parce que je les connaissais pas, ou parce que j'ai fait un autre choix. Enfin, vous voyez, ça, soyons bien clairs là-dessus, hein. Je crois, hein. Y a-t-il des déplacements d'addiction? Si oui, comment, je pense, se dériver, aller vers un bon objet, ou faire baisser l'addiction? J'ai envie de dire que il n'y a pas de, comment dire, bien évidemment qu'une addiction, en fonction là, du point de vue éthique sur lequel j'étais, hein. Au fond, je disais d'une certaine manière que l'addiction, n'est, entre guillemets, n'est pas une prison définitive. Vous voyez, hein, je le prends comme ça. Hein. Et donc, effectivement, il y a des moyens. Enfin, j'en ai indiqué deux dans le topo que j'ai fait. À la fois un déplacement vers des activités différentes et puis aussi vers des... Alors, en termes techniques, des sublimations possibles aussi, vous voyez. Si je vous ai parlé, comment dire, tout à l'heure, pas mal d'attachement, c'est pas pour rien. C'est parce que, d'abord parce qu'il y a une journée demain, où l'attachement au Christ est certainement une façon de déplacer, de voir autrement l'addiction, vous voyez. Enfin, c'est en ce sens-là, en tout cas, que j'ai choisi ce concept. Hein. Suite au passage à l'acte, à la satisfaction immédiate d'une addiction, vous n'avez pas parlé des sentiments qui peuvent naître, insatisfaction, culpabilité, dégoût de soi. Oui. Alors, vous allez me dire, pourquoi? Alors, deux raisons qui peuvent être discutables. Hein. La première, c'est que effectivement, pour moi, l'addiction, je veux dire, c'est quelque chose qui peut bouger, qui peut se transformer. Hein. Ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième, c'est que... surtout dans un monde chrétien, on est tellement abruti de péché, de culpabilité, si vous voulez, enfin toutes ces choses-là, que effectivement j'ai levé le pied sur cette dimension-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein, bien sûr. Et chacun, effectivement, se débrouille plus ou moins bien avec ses sentiments de culpabilité, cette image de soi qui, finalement, peut nous dégoûter, ou l'insatisfaction qu'on a à en être encore là, etc., etc., vous voyez. Mais effectivement, je n'ai pas insisté beaucoup sur ce versant, qui existe, bien sûr. Alors, ben j'en sais rien là sur la question. mais oui, mais c'est un peu voulu, si vous voulez, que je réagisse comme ça. C'est mon tempérament, mais quand même, pas seulement. C'est que... Oui, mais je vais vous la dire. N'inquiétez pas, ça va venir. Lien, addiction et souffrance. Est-ce que... Quand on est dans l'addiction, on est forcément dans la perte de liberté ou de sens. J'en sais rien, vous voyez. Tant que la personne, si vous voulez, je ne l'ai pas entendue raconter ce qu'elle vit vraiment, eh bien, je ne sais pas. Peut-être. Que ça sera de la perte de liberté ou de sens, mais peut-être que ça sera aussi une découverte. Écoutez, il y a dans tout acte humain des fécondités qu'on ne soupçonne pas, vous voyez. Même les pires choses, si vous voulez, les pires choses telles qu'elles sont désignées par la société. Qu'est-ce qui me fait dire ça? J'ai été pendant tout un temps aumônier dans un hôpital psychiatrique et dans un service d'unité de malades difficiles, donc des gens qui ont fait des crimes et tout ça sous coup de folie. J'ai vu là des gens qui, au cœur et au creux d'une misère pas possible, mais faisaient des découvertes qui m'ont fasciné. Vous voyez, c'est ça qui me fait répondre et réagir à... Comment dire, à cette question, vous voyez. Je ne dis pas que c'est facile. Il nous a semblé que des phases addictives pouvaient être un moindre mal, voire positif, ça va dans le même sens, vous voyez. Entre parenthèses, quand on dit ces choses-là, on en parlera peut-être sûrement demain, on est tout près du message chrétien. Quand même, le Christ, il a fabriqué de la vie avec les pires choses, et même sa mort, enfin. C'est quand même pas rien, quoi. Vous voyez ? Alors, une autre question qui était là, comment donc comprendre les mécanismes de l'addiction? Je pense qu'on approche à peu près de quoi il retourne, mais comment on s'en sort? Bon, premièrement, on s'en sort comme on peut. Et voilà. Et si on peut? Et deux. Je pense quand même que c'est important d'apercevoir que c'est par un ensemble de moyens qu'on peut petit à petit émerger de ce genre de situation, voyez. J'évoquais là tout à l'heure, avec l'exemple de tout à l'heure, c'était le couple qui s'inventait des comportements répressifs ou des stratégies de contournement. Bon, c'était leur façon d'essayer d'en sortir. Je pense qu'on ne s'en sort pas sans un travail sur soi, sans une aide et sans un soutien d'amis. Il n'y a pas seulement que les spécialistes qui comptent, il y a aussi les relations qu'on peut avoir et qui nous rétablit, si vous voulez, dans une dynamique d'humanité que peut-être on a oubliée ou qu'on ne pouvait pas vivre. Peut-être. On me demande aussi si les obsessionnels peuvent être assimilés, comment dire, à des conduites addictives. Alors, c'est pas exactement pareil. Hein. L'addiction, bon, je l'ai dit là précédemment, hein, c'est ça met en route du plaisir, du besoin, du désir. Enfin, bon, vous voyez, l'obsession, elle a plus à voir, généralement, hein, à quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse, c'est-à-dire de ce débat intérieur qui existe, donc par rapport à l'extérieur, par exemple, hein, et c'est le moi qui se bagarre, enfin je vais prendre les mots faciles, hein, le moi qui se bagarre avec le surmoi, quoi, hein, sans arrêt, quoi, dans un combat sans fin. Hein. Donc je ferai quand même là une petite, enfin pas une petite, je ferai bien une différence. Hein. Mais c'est vrai, dans un premier coup d'œil, on a l'impression que ça se rapproche de l'addiction. Le vagabondage sexuel est-il nécessairement et totalement dénué de toute forme d'amour ? Alors, d'abord, les termes sont intéressants, vous voyez. Mais enfin, faut s'entendre qu'est-ce qu'on entend, quoi, par vagabondage sexuel, effectivement. Ça peut être un chemin de recherche de soi, vous voyez. Alors, effectivement, il y en a qui ne seront pas d'accord, qui diront, ah, bah non. Ça ne correspond pas à la norme, vous êtes en dehors des clous, enfin bon, d'accord. Mais, vous voyez, je pense que là, il y a quelque chose, il me semble, un déplacement de sens peut-être qui me semble important à repérer. Parce que dans ce qu'on appelle, comme ça, un peu vite, vagabondage, il y a aussi la recherche ou l'inquiétude de ce que peut être une relation possible. Vous voyez. Et en tout cas, ça met en route des énergies d'aimer, et que c'est ça qu'il faut analyser, vous voyez ? Enfin, ou qu'il faut regarder d'un peu plus près. Donc, bien évidemment, il y a des formes de... On pourrait dire ça, je crois qu'on pourrait dire ça, que le vagabondage sexuel peut des fois s'entendre comme une recherche d'amour, vous voyez ? Enfin, du moins, c'est la position que je prends par rapport à cette question. Hein? Alors, ben, j'y reviens parce que c'est marqué là sur ce papier. Comment gérer ou créer des temps d'attente pour éviter... La puissance de la pulsion et le passage à l'acte. C'est toute une éducation, c'est tout un travail. Hein. Parce que quand on est pris par ses pulsions, ben on est pris par ses pulsions. Hein. Bon, voilà. Et effectivement, il y a des stratégies d'attente qui sont sûrement importantes à mettre en place. Justement pour faire l'expérience que le manque a quelque chose de structurant. Dans la dynamique chrétienne, d'ailleurs, les mystiques, ils savaient ça par cœur, enfin par cœur, ils n'arrêtaient pas, si vous voulez, de vouloir, un mystique c'est ça, il n'arrête pas de vouloir une relation à Dieu, et en même temps, il est sans arrêt en train de faire l'expérience que Dieu lui manque, vous voyez ? Et c'est dans ce paradoxe-là qu'il fait ce chemin. Alors nous, après, on leur met une auréole, on les met sur les autels, mais d'une façon existentielle, c'est véritablement un combat. Vous voyez ? Alors oui, c'est effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que l'addiction pouvait être aussi un équilibre, même précaire ou provisoire. Une manière de prendre en compte la gradation la gradualité des situations, sans doute. Oui. Je stoppe un peu mes réactions. Peut-être ça vaut le coup que vous ayez des re-questions ou des résonances ou des tout ce que vous voulez, quoi.
On s'est un peu posé la question de la connaissance qu'on pouvait avoir de nos addictions, du fait qu'il pouvait être important de prendre conscience,
oui,
de l'addiction pour trouver un meilleur...
Oui, oui.
Pour mieux se connaître, pour trouver un plus grand équilibre.
Tout à fait. Oui. Alors, vous pourrez le prendre si vous voulez. J'ai trouvé ça dans un bouquin qui proposait un questionnaire. Alors, le questionnaire, vous voyez, style américain, hein, vous répondez à la question et comme ça, vous allez savoir où vous en êtes, quoi. C'est un peu primaire comme façon de faire. Mais enfin, je l'ai amené, vous le prendrez si vous voulez. Vous pourrez jouer avec, enfin, si vous voulez. Et ça donne quand même une idée, si vous voulez. Ça peut aider à un certain travail personnel, quoi. Voilà. Mais en sachant que, comment dire, une addiction, je veux dire, ça change aussi suivant les époques de la vie. Hein. Il n'y a pas, comment dire... oui, ça change en même temps que nous changeons tous. Hein.
L'addiction, en fait, il y a peut-être autre chose derrière.
Oui.
Une autre chose, une autre addiction qui aurait été plus importante et qu'on ne voit pas. C'est intéressant de savoir ça.
C'est-à-dire que là, on ne peut le savoir que effectivement si on fait un travail sur soi. Mmh. Moi, je crois qu'il n'y a pas. Là, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Je prends l'histoire là de ce Andrew là, que je vous ai évoqué rapidement, qui venait pour une histoire de conflit d'autorité. Enfin, bon, très bien, j'ai écouté, c'était mon boulot. Hein, mais en même temps, ces questions étaient beaucoup plus profondes que ce conflit d'autorité qui l'avait amené, quoi. Non, c'est très rare, parce que souvent, quand les personnes, je veux dire, ont fait un chemin, ont réglé plus ou moins leurs problèmes, d'abord ils n'en parlent plus, et puis après ils s'en vont. Vous voyez ? Ça c'est très important, hein, que le psy, faut qu'il accepte d'être à un moment ou l'autre, entre guillemets, un déchet, enfin... Quelqu'un qu'on met de côté, puis bon, ben voilà, les gens continuent leur route. Hein. Mais de temps en temps, oui, il y a quand même que des fois des retours. Ou, ce qui se produit, des gens qui arrivent et puis qui vous disent « Ah ben écoutez, je connais pas bien sûr, et j'ai eu votre adresse parce que mon cousin, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il est venu vous voir. » Enfin bon, voilà. Mais la plupart du temps, non, il n'y a pas de retour. Et c'est peut-être bien comme ça.
Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un se perçoit comme étant dans une addiction parce que, quelque part, ça le rassure? Parce que le fait de dire « j'ai une addiction », ça lui permet de mettre un mot sur l'ignorance.
Ouais.
Et en plus, dans l'addiction, il y a un côté où on n'est pas vraiment libre, donc ce n'est pas vraiment de sa faute.
Ouais.
Est-ce qu'il peut y avoir un risque qu'on se dise « je suis dans l'addiction », alors qu'en fait, objectivement, ce n'est pas le cas?
Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut se leurrer sur sa propre, comment dire, sa propre pratique, quoi, on va dire ça. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et alors ça, il n'y a que par vraiment un travail personnel qu'on peut s'en apercevoir. Et surtout, il ne faut surtout pas que le psy de service dise oh, bah, vous inquiétez pas, quoi. Ben non, parce que si c'est la. si c'est comme ça que la personne vit, bah bon, comme ça. Hein. Vous voyez? Mais ça évolue, ça peut évoluer, bien sûr. Oui, oui. Oui.
Pour, pas dire entretenir les addictions, mais enfin,
oui.
Elles interviennent quand même forcément pour renforcer ce qu'on
essaie. Tout à fait. Tout à fait. Bah, la culpabilité, c'est quand même un. Bon, c'est un moteur, hein. C'est un moteur de la vie de tout un chacun, hein. Déjà, ça, je veux dire, la culpabilité, ça fait partie de, je dirais, de la structure humaine. Bon. C'est un élément parmi d'autres. Hein. Et alors, après, effectivement, c'est la façon, je dirais, dont on s'en sert ou comment on la sert. Vous voyez, c'est pas exactement pareil. Vous voyez. Là, en régime chrétien, hein, la dynamique chrétienne a inventé tout un appareillage, hein, pour gérer la culpabilité. Sacrement de réconciliation, Seigneur prend pitié, enfin, j'en passe. Enfin, vous voyez, c'est... Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, c'est une dimension qui n'est pas facile à vivre, et donc, bon, bah, si on a des moyens pour la gérer, c'est peut-être pas mal, quoi. Ceci dit, elle a aussi ses bons côtés, hein. La culpabilité nous permet aussi de... Je veux dire, d'apercevoir des choses quand même, hein. C'est pas que mauvais, c'est ça que je veux dire. Voilà.
Ouais. Encore faut-il se sentir coupable.
Ah bah oui.
Parce que
si on est
coupable de rien, mais qu'on se sent coupable,
ah.
Il y a une bascule là qui est dans.
Alors, il faut bien distinguer la culpabilité du sentiment de culpabilité. Hein. Attention, hein. Non. Pour l'instant. Oui, ouais, Manuel.
Je ne sais pas si c'était la question que posait Arnaud quand il demandait est-ce que vous avez des retours. Enfin, en tout cas, la question qui, moi, me vient, c'est de me dire qu'est-ce que vous parlez de travail sur soi et qu'est-ce que vous pouvez dire ou témoigner de ce que des gens ont fait un chemin, ont changé, ont bougé. Est-ce que c'est efficace? Non pas que c'est automatique.
Oui, oui, oui.
Vous avez des retours positifs en
fait. Ah oui, parce que...
Je sais pas si c'est...
De toute façon, une démarche analytique, d'abord, c'est pas infini, premièrement. Et puis, il y a quand même des phases, si vous voulez. Si on fait ce choix-là, au début, on est... Je forçais un peu le trait, mais on est tout heureux d'avoir pris cette décision. On n'arrête pas de bien parler à son psy, d'en parler à ses proches, et ça les enquiquine, mais enfin, ça ne fait rien, c'est comme ça. C'est une première phase importante, vous voyez. Et puis, il y a une deuxième phase, si vous voulez, avec le temps, généralement, où on arrive sur des vraies questions personnelles. Et c'est un moment qui est souvent très délicat, qu'il faut soutenir, parce que quand on est face à sa réalité, quelquefois ça peut être véritablement très déstabilisant. Vous voyez alors donc ça c'est une autre phase critique. Hein. Je veux dire ça bêtement, parce que ça dépend de chacun, mais généralement quand même au bout de 2 ans, c'est à ce moment-là que les choses commencent à être un peu... comment dire, à se solidifier, quoi. Hein, ouais. Et puis, bon, on fait son chemin, puis il y a un moment où, effectivement, devant telle ou telle question, on se dit, bah, tout compte fait, ça va. Bon, alors, c'est à ce moment-là qu'il faut penser, à s'arrêter. Alors, les effets d'analyse sont variables, si vous voulez, pour les gens, hein. Freud disait, oh, bah, du moment que la personne, elle est capable d'aimer et puis de travailler, c'est bon, quoi. C'était son critère, tu vois. Bon, c'est un peu juste, mais enfin, c'est comme ça, c'est ce qu'il disait. Hein. Des résolutions d'analyse, il y en a de toutes sortes. Hein. Ça va du divorce à un choix amoureux, à écrire un livre, à acheter une maison, à faire des gosses. Enfin, tout est possible. Hein. Vous voyez, mais ça signe quand même des affaires comme ça, très simples. Hein. Enfin, très simples, très importantes. Ça signe, si vous voulez, une étape franchie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, j'exclus quand même, des cas pathologiques, enfin, qui ont une dimension psychotique affirmée, et alors qu'on peut effectivement avoir pendant des années, plus des années, et encore d'autres, quoi. Enfin, vous voyez, c'est autre chose. Là, je vous donne le cadre facile. Oui. Oui.
Et peut-être que ce serait bien pour tout le monde que vous redéfinissiez ce qu'est l'addiction avant d'arriver à la dépendance.
Je crois que ce qui signe, si vous voulez, l'addiction, c'est la liberté de la personne.
Oui, mais avant, c'est quoi une addiction? Avant les conséquences sur la liberté, c'est quelque chose de précis. Et ça, je crois que vous n'avez pas défini.
Qu'est-ce qu'on va dire? Si, c'est l'assujettissement à un objet, en termes techniques, c'est ça.
Et ça, c'est déjà la conséquence. Ce que vous ne comprenez pas, c'est au tout départ. C'est-à-dire, excusez-moi, l'addiction, c'est d'abord une pratique.
Oui.
On s'adonne.
Oui.
Si vous ne partez pas de là, on ne va pas savoir de quoi on parle.
Mais, oui, mais les pratiques sont très, très variables.
Ça a l'air bête, mais je crois que ce qui se passe, c'est que vous avez eu un discours où on sent que vous dominez bien votre sujet, que vous avez une connaissance approfondie, et du coup, pour nous qui sommes un peu neurosciences, il y aurait besoin de revenir à des fondamentaux, des trucs puissants qui permettent de bien comprendre. Premièrement, l'addiction, c'est une pratique.
Oui.
Et que toutes les pratiques sont addictives.
Bien sûr. Tout à fait.
Ça, demain,
oui.
Que ces pratiques, elles sont compulsives, et toutes les pratiques sont compulsives. Et les pratiques compulsives ne sont pas forcément addictives.
Non, non.
Et qu'ensuite, vous l'avez dit, il y a une dépendance.
Oui.
Si on va dire en gros, si on garde ces trois items, on va pouvoir commencer à parler d'addiction.
Oui.
Sinon, il ne faut pas parler d'addiction, parce qu'on va les uns et les autres se poser la question, mais quand je fais ceci, quand je fais cela, est-ce que je suis addict?
Ah oui, non. Bien sûr.
Tout à l'heure, vous avez parlé des couples fusionnels.
Oui.
Fusionnels, à mes yeux, il n'est pas addict. Ça pose une question. C'est pas...
Ça dépend de l'intensité.
Non, mais puis la culpabilité, c'est vrai que chez les chrétiens, on balance la culpabilité, mais avant la culpabilité, il faut d'abord savoir si c'est la pratique que vous avez à viser imputable ou pas. Ensuite, une fois qu'elle vous est imputable, vous avez à en répondre.
Absolument.
Quelle place vous occupez dedans. Et si effectivement, c'est tout à fait, vous êtes à l'origine de ce qui se produit, à ce moment-là, vous êtes coupable. Du chemin à faire. Avant ça, c'est Georgina Dufoix, responsable, mais pas coupable.
Oui, oui.
Mais si je dis ça, c'est parce que vraiment dans le groupe, on s'est rendu compte que si on ne connaît pas bien des fondamentaux, on peut s'engager tout de suite. Depuis le début, on parle d'addiction sans avoir défini, c'est un petit peu, c'est exactement en quoi ça consistait. On doit parler de culpabilité sans redéfinir que la culpabilité, c'est le point final, que l'addiction, c'est le point final, et qu'on peut tout à fait avoir des pratiques et des pratiques sexuelles qui ne soient pas addictives.
Ah oui.
On rigolait parce qu'on a même posé la question de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous appelez sexe, donc addiction au sexe, parce qu'on a bien vu que ça regrouperait ces quatre lettres.
Bien sûr.
Plein de choses.
Absolument. Absolument.
Calme, ça pouvait être ça pouvait être n'importe quoi. C'était vraiment. On s'est posé la question, on s'est dit, mais on parle de quoi? En parlant d'addiction, en parlant de sexe.
C'est-à-dire que, oui, mais je pense que la. Là, c'est une des limites, si vous voulez, de ce type de travail. On ne peut parler, et vous êtes tombé dessus en groupe, à mon avis, c'est inévitable, c'est qu'on ne peut apercevoir ce qu'il en est de l'addiction que si on raconte. Il n'y a que comme ça. Et à ce moment-là, je dirais, l'addiction est plutôt une conclusion d'un récit qu'une définition de vocabulaire. Vous voyez, ça n'empêche pas une définition de vocabulaire. Hein. Mais je pense que votre difficulté, elle manifeste bien ce qui est en jeu dans ce type de problème. Je crois, enfin, il me semble. Ouais.
Alors, si on était revenu au milieu des témoignages, c'est parce qu'un des membres du groupe, d'un seul coup, a eu la sensation que là où il se pensait addict, il n'était pas addict.
Oui.
Que c'était une vie qu'il pratiquait. Hein,
oui.
Il n'était pas dans dans ce schéma. C'est important parce que du coup,
bien sûr.
Il faudrait savoir qu'on peut aussi avoir une pratique, on peut avoir une vie.
Bah, tout à fait.
Des fois, parfois un peu compulsif, sans être.
Ah ben oui, ah ben bien sûr, bien sûr. Non mais c'est important de, comment dire, de clarifier effectivement ce que vous venez de dire parce que c'est un des, comment dire, il me semble, hein, un des enjeux, une des difficultés d'un travail de groupe sur ce genre de questions. Ça c'est vrai, c'est vrai.
Compulsif, addictif.
Quelle différence peut y avoir avec quelqu'un qui est compulsif, il me semble.
Là aussi, c'est faut voir la situation. Moi, je vous ai simplement parlé de, j'ai injecté le mot de répétition et de reproduction, hein, pour essayer d'éclairer ce que vous dites là. Mais il n'y a qu'en analysant les pratiques ou les comportements qu'on peut peut-être faire une différence. Voyez.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans pouvoir parler de ces choses qui ne sont pas simples et voilà, que l'on peut aborder de manière sérieuse, ni sans que ça soit ni triste, ni la gaudriole, mais simplement juste. Et vous nous avez accompagnés sur plus de justesse.
Merci. À demain.
Demain, alors.